Géopolitique. Chantal Laureau.
Bonjour et bienvenue dans Géopolitique. Internet serait-il devenu un terrain de guerre? Et la cyberattaque, la nouvelle arme du 21e siècle? Les États et les acteurs privés vivent désormais dans la hantise des virus malveillants. Comment s'en protéger? Qui sont ces pirates, ces hackers qui sévissent et sèment la panique de Washington à Moscou en passant par Dubaï, Londres ou Paris? S'agit-il de cybercriminalité ou de sabotage avisé politique? Quelles sont les conséquences géopolitiques de ce nouveau type de terrorisme? Pour en débattre, trois invités. Laurent Bloch, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes chercheur en cyberstratégie à l'Institut de l'économie et vous avez publié aux éditions DiploWeb l'Internet vecteur de puissance des États-Unis. Point d'interrogation. Nicolas Arpagian, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes directeur de la stratégie et des affaires publiques d'Orange Cyberdéfense et directeur scientifique à l'Institut national des hautes études de la sécurité et de la justice. Et puis Fabrice Eppelboin, bonjour.
Bonjour.
Vous avez cofondé Yogosha, c'est une start-up spécialisée dans la cybersécurité et vous êtes enseignant à Sciences Po Paris. Alors on va commencer par parler des deux cyberattaques géantes qui ont fait la une de l'actualité. Il y a eu mi-mai le virus WannaCry, avant fin juin le virus Petya. D'abord, Fabrice Eppelboin, à qui doit-on les noms de ces logiciels malveillants, ces fameux malwares, c'est comme ça qu'on prononce?
Oui, généralement c'est l'organisme de recherche qui le met à jour et qui l'analyse, qui nomme le virus, sauf qu'on sait une itération, c'était le cas de Petya, qui a eu beaucoup de noms différents.
Oui, Expetre aussi, j'ai lu.
Petya, non-Petya, Expetre, plein de choses. Mais généralement, la paternité du nom revient à l'organisme de recherche qui l'a mis à jour.
Alors, avec quelques semaines de recul, est-ce qu'on peut dresser un bilan de ces deux attaques, Nicolas Arpagian?
Alors, un bilan, déjà, c'est de considérer que on est là dans une attaque de grande ampleur internationale et qui a essentiellement concerné des entreprises, des administrations. C'est des entités, c'est pas tellement des particuliers qui étaient concernés. Troisième particularité, c'est que on va distinguer les deux puisqu'ils ont des modalités un peu spécifiques.
On va commencer par
WannaCry, c'est-à-dire qu'effectivement, qui a opportunément utilisé une faille que Microsoft avait identifiée. Et en fait, c'est une vieille tradition de la famille Microsoft qui, depuis une quarantaine d'années, tous les mois, fait un événement qui s'appelle le Patch Tuesday, le pansement du mardi, et qui est en fait le signalement par l'éditeur Microsoft des failles qu'il a identifiées et donc les moyens de correction qu'il propose. Simplement, ça suppose que chaque utilisateur procède à ses mises à jour. Et il s'avère que quelques semaines auparavant, Microsoft avait signalé un certain nombre de failles. Simplement, les entreprises, il s'avère qu'au fur et à mesure que la vie de la société se déroule chaque jour, en fait, elle crée de nouvelles applications, de nouveaux services. Et ils ont toujours un doute sur le fait que ces correctifs qui viennent ultérieurement pourraient perturber la continuité de l'activité. Et il y a donc très régulièrement des arbitrages à faire entre est-ce que je mets à jour au risque de fragiliser la continuité de mon activité ou au contraire, est-ce que il sera toujours temps de le faire un peu plus tard et dans d'autres circonstances. Et donc, ce qui fait qu'un certain nombre d'entreprises, de facto, s'exposent à ce risque. Alors, il s'avère que tant qu'elles ne font pas l'objet d'une attaque, on va dire jusque-là, tout va bien. Quand un pirate audite et en tout cas se rend compte qu'il a là un terrain d'épanouissement suffisamment conséquent, il peut conduire ce type d'attaque. Par contre, on va pouvoir s'interroger sur les motivations, les caractéristiques d'un rançongiciel, c'est-à-dire le fait de chiffrer des données et de les libérer en échange du paiement d'une somme, correspondait globalement à des activités crapuleuses. Là, moi, il s'avère que j'étais assez sceptique sur le mode opératoire, on pourrait rentrer dans le détail qui le justifie, mais je pense qu'on était davantage dans une opération de test, de résistance, un peu comme on voit si vous secouez un peu une voiture, voir si elle a un signal d'alarme, si elle a des moyens de se sécuriser, de se protéger, et qui était davantage dans cet esprit. Et ce qui veut dire que là, on s'écarterait de la piste crapuleuse et plutôt à des fins stratégiques offensives qui peuvent là avoir des auteurs multiples.
Fabrice Eppelboin, il faut rappeler comment fonctionnent ces rançongiciels.
Alors, ces rançongiciels arrivent dans un réseau d'entreprises par une multitude de voies. Petya, c'était par le biais d'un logiciel de déclaration des impôts en Ukraine qui avait été piraté préalablement. WannaCry, c'était tout simplement du phishing, c'est-à-dire ces mails frauduleux qu'on vous envoie et sur lesquels vous cliquez par inadvertance ou par ignorance. Il y a mille façons de faire rentrer un tel malware dans une entreprise. Les deux avaient des modalités très différentes. L'un, le premier, WannaCry, était plutôt quelque chose qui allait se répandre sur la surface, pour ainsi dire. Petya, lui, allait en profondeur dans le réseau de l'entreprise et pouvait totalement paralyser une entreprise tout entière. Donc c'était vraiment deux armes, parce qu'il faut bien appeler ça des armes, totalement différente. Et je rejoins tout à fait l'approche de Nicolas. Ça ressemble pas du tout à des cybercriminalités. On est très clairement.
Parce qu'on demandait $300, c'est ça, de rançon, entre
guillemets. Alors, sur le premier WannaCry, on demandait $300. Je crois que quelqu'un a fait le calcul de combien ça avait rapporté. La somme était ridicule par rapport à l'ampleur de l'attaque. Et très clairement, l'objectif n'était pas financier. Quant au deuxième, il demandait de l'argent, mais en pratique, il n'y avait aucun moyen de récupérer ces données. Et c'était clairement pas un rançon logiciel, c'était là pour détruire.
Donc, vous êtes d'accord avec Nicolas Arpagian, la piste criminelle pour WannaCry, en tout cas, donc totalement exclue.
Ni pour WannaCry, ni pour Petya. C'est pas des criminels. L'intention est beaucoup plus politique que criminelle.
Laurent Bloch, vous êtes d'accord avec vos deux collègues?
Oui, je suis tout à fait d'accord. Tout ça ressemble à une manœuvre d'entraînement d'une puissance politique qui a des objectifs. Alors, il faut bien voir les choses. Les conflits du 21e siècle, ce seront des conflits dans le cyberespace. Le cyberespace est le nouvel espace conflictuel. Ça a commencé parmi les espaces publics, hein. Il y a eu la haute mer au début, et puis ensuite il y a eu l'espace aérien, l'espace extra-atmosphérique, et maintenant c'est le cyberespace. C'est là que vont se dérouler la plupart des conflits du 21e siècle, et là nous assistons aux premières tentatives de puissance étatique, je pense, parce que, bon, on n'en sait rien, hein, c'est toujours la même chose, l'attribution d'une attaque est toujours incertaine dans le cyberespace, parce qu'il est trop facile de la dissimuler, parce que une attaque peut utiliser des chemins trop différents et trop dissimulés, trop tortueux, on va dire. Mais on peut soupçonner vraiment une puissance qui utilise l'alphabet cyrillique, on va dire. Mais il n'y a aucune preuve, bien sûr. On ne peut pas en être certain. Ce qui est sûr, par contre, c'est que les conflits du 21e siècle, parce que les enjeux économiques sont là, l'économie mondiale s'est réorganisée autour de l'Internet. Le commerce mondial ne fonctionne que grâce à l'Internet, et donc les conflits qui auront pour objet l'accès aux matières premières, parce que c'est de ça qu'il s'agit, se dérouleront dans l'Internet, et avec des armes comme celles qui viennent d'être essayées là.
Alors vous parliez tout à l'heure donc de sabotage, de visée destructrice des données, et ça se fait par un virus inoculé derrière en fait le premier virus. Comment ça se passe concrètement ?
C'est ce qu'on appelle un malware, c'est un terme assez générique qui regroupe tout un tas de choses, mais qui grosso modo désigne un logiciel avec une intention hostile vis-à-vis d'un système informatique.
Et le fameux wiper?
Le wiper, c'est une typologie de ces malwares qui va grosso modo effacer votre disque dur. S'il n'arrive à toucher qu'un seul poste, c'est pas un drame généralement. S'il arrive à toucher tout un réseau d'entreprises, ça peut provoquer des catastrophes en série.
Oui, parce que quelles sont les conséquences au niveau industriel ? Est-ce qu'on a une idée, un ordre de grandeur, Nicolas
Arpagian ? Alors, en fait, l'idée, c'est que la problématique, ce sont les données sont numérisées. Ça veut dire qu'elles ont souvent pas d'autre moyen d'existence que cette numérisation. Dès lors que vous n'avez pas mis en place de dispositif de sauvegarde, de duplication, en clair, vous avez des copies à l'abri non connectées au réseau qui fait que si votre information est sabotée, elle n'est plus accessible. Vous pourriez revenir à une situation normale ou en tout cas avec le moins de dégâts possible, parce que vous récupéreriez des données que vous auriez stockées par ailleurs. Si vous n'avez pas conduit cette démarche qui est coûteuse, qui prend du temps, qui suppose d'avoir justement une politique de sécurisation des actifs numérisés, en fait, vous vous trouvez dépourvu. Vous imaginez un peu comme si à la maison, vous n'aviez plus vos historiques de feuilles de paye, vos historiques d'impôts, vos historiques médicaux. Vous vous retrouvez à compter sur votre pharmacien qui a peut-être gardé des choses, votre médecin. Et donc, vous allez essayer, avec vos partenaire, votre réseau social, au sens vraiment physique du terme, d'essayer de reconstituer cet historique, de reconstituer cette information qui vous concerne directement et qui justement va aussi vous permettre de conditionner votre vie au quotidien, mais surtout votre avenir. Et donc, c'est vrai que les entreprises n'avaient pas pris l'habitude d'investir dans cette durabilité de leur actif numérisé, et donc effectivement, c'est un point de fragilité. Alors, les conflits ne seront pas, certainement pas que numériques, puisque gardons à l'esprit que, on l'a vu d'ailleurs au moment des révoltes arabes, on peut faire des vagues de cyberattaques, on peut faire des campagnes d'agitprop sur les réseaux sociaux. Bon, à un moment, il faut quand même que des êtres de chair et de sang se déplacent sur un palais présidentiel, qu'une place soit physiquement occupée, des troupes soient envoyées. En tout cas, ça viendra certainement en complément, soit pour précéder, soit pour amplifier un conflit conventionnel, c'est-à-dire avec l'engagement de troupes sur un théâtre d'opération. En tout cas, ça viendra certainement compléter l'approche offensive. La difficulté, c'est que effectivement, tant que l'attaque n'est pas survenue, ça nécessite des investissements, ça nécessite des entraînements et surtout, ça nécessite des compétences. Et pour l'instant, ces compétences, elles sont rares en nombre. Elles sont rares, pourquoi ? Parce qu'on n'a pas forcément formé les esprits, les compétences dans ce domaine-là. Et donc, ce qui fait que les entreprises sont à la recherche de ces profils, les états-majors militaires, les services de renseignement, les entreprises qui font du conseil, qui interviennent un peu en pompiers, en sapeurs-pompiers, sont demandeurs de ces profils. Et puis également, la criminalité, puisque, comme on l'évoquait, il y a une relative impunité, ou en tout cas un caractère lucratif évident dans ces actions-là. Donc c'est vrai que là, on est dans une dimension très humaine, qui est moins technique, mais qui est très humaine d'avoir des esprits capables d'intervenir, de déceler, puisque gardons à l'esprit que dans les cyberattaques, il y a celles que l'on voit et que l'on souhaite, et l'attaquant souhaite qu'on en voit les effets, mais il y a toutes celles qui se déroulent de manière totalement insidieuse, notamment par le vol d'informations qui peuvent être exploitées en toute discrétion. Donc c'est pas, il n'y a pas que ce qu'on voit dans le cas d'un rançongiciel, c'est presque rassurant parce que on voit, vous recevez votre message disant vos informations sont chiffrées, et là vous savez que vous êtes en situation de crise. La difficulté, et on l'a vu avec des grandes entreprises, c'est lorsqu'elles ont fait l'objet d'un piratage, d'un siphonnage de l'information, et que en fait c'est au moment où elles voient arriver sur le marché un produit qui est le cousin, le frère jumeau du leur, moins cher parce qu'il n'y a pas eu les investissements nécessaires en recherche et développement. Là, à ce moment-là, vous vous apercevez que dans cette guerre économique où les affrontements de puissance sont conséquents, le vol de l'information est une arme tout à fait efficace.
Et alors, selon Europol a donné des chiffres cette semaine, le nombre de victimes d'extorsion par piratage informatique a augmenté de 11,4% en un an. C'est un chiffre qui vous paraît juste ou bien vous pensez que c'est sous-estimé, Laurent Bloch ?
Oui, alors en fait, on n'en sait trop rien, hein, parce que les entreprises souvent dissimulent le fait qu'elles ont été victimes d'attaques. Ce que je voudrais dire, c'est que je suis entièrement d'accord avec Nicolas Arpagian, le seul moyen de se prémunir pour une entreprise contre les conséquences de ce type d'attaque, c'est l'accroissement des compétences, parce que la variété des attaques est tellement grande qu'il est impossible de tout prévoir. Hein, il y a eu une époque où on disait vous achetez le bon pare-feu et le bon logiciel antivirus et vous êtes à l'abri. Là, c'est fini. La créativité des attaquants est considérable. Le budget de R&D des attaquants est plus grand que celui des défenseurs. Donc, on ne peut pas savoir ce qui va se passer.
Donc c'est une guerre une cyberguerre qu'on ne peut gagner que si on est plus fort que ces pirates.
Il faut avoir des ingénieurs compétents qui soient capables de prendre la mesure des événements et de réagir immédiatement. D'autre part, moi, ce qui me frappe énormément, les moyens pour éviter les conséquences catastrophiques des dernières attaques, WannaCry et NotPetya, on les connaît depuis longtemps. Moi, j'ai déjà eu l'expérience de ça il y a au moins 15 ans. C'est le cloisonnement du réseau, la sécurité des comptes des administrateurs qui ont la main sur le réseau. Il ne faut pas qu'en même temps, ils aillent sur Le Bon Coin ou des choses comme ça, ou YouTube, et puis les mises à jour du système, mais surtout le cloisonnement du réseau. Ça évite les catastrophes comme il y a eu chez Mars ou des entreprises comme ça.
Mais en même temps, pourquoi est-ce que les pirates ne sont pas allés, enfin, même évidemment, plus loin, c'est-à-dire que, par exemple, en bloquant le métro de Kiev ou en s'emparant de filiales dépendantes de l'aéroport de Kiev, par exemple, il y aurait pu y avoir des catastrophes, je sais pas, des collisions d'avions ou des atterrissages qui se passent mal. Et finalement, ils sont intervenus, enfin, ils sont rentrés dans les ordinateurs, mais ils sont pas allés jusqu'au bout. Pourquoi, Laurent Bloch ?
Oui, pour faire ça, il faut un objectif stratégique. Ce qu'on a vu avec Stuxnet, qui a immobilisé les centrifugeuses des installations nucléaires iraniennes, c'est que on peut avoir des effets cinétiques avec des attaques cyber, et donc avec des effets matériels graves qui peuvent causer des morts humaines, qui peuvent causer des dégâts tout à fait considérables. Mais on ne déclenche de telles attaques que si c'est lié à un objectif politique à un moment donné. Donc là, visiblement, les attaquants n'avaient pas de raison particulière de provoquer 500 morts dans le métro de Kiev.
Et alors, tout à l'heure, vous parliez, Laurent Bloch, vous faisiez allusion à l'écriture cyrillique. Nicolas Arpagian, cette attaque de Petya a touché principalement et d'abord l'Ukraine. Donc, quel intérêt la Russie aurait-elle à... Parce que la Russie, il faut aussi préciser que la Russie a elle-même souffert de l'attaque.
Exactement, c'est voilà. Pour ça que moi je me garderais bien d'attribuer une quelconque responsabilité.
Ça paraît un peu contradictoire de voir la
main
de Russie.
Parce qu'effectivement, on n'est pas dans un univers conventionnel où à un moment, même d'ailleurs, on l'avait vu en Russie, où à un moment on envoie des troupes, et la qualité des équipements, la nature de la langue utilisée par le personnel militaire engagé, même si en général il prend soin de retirer les éléments distinctifs de son uniforme, effectivement donne des indicateurs aux observateurs, aux agents de renseignement étrangers qui peuvent sur le terrain analyser et déduire qu'il s'agit de troupes correspondant à un pays ou un tel autre. Évidemment, dans le domaine numérique, il y a peu de cas où on intervient à partir de son propre territoire. Alors, il y a des indices, il y a des faits concordants, il y a ce que les juristes appellent des intérêts à agir, on le comprend bien, mais aussi un des terrains d'épanouissement, et c'est aussi une des raisons pour laquelle, on l'a vu au dernier G7, vous avez des déclarations tout à fait solennelles des États, et depuis longtemps, qui disent « Ah là là, cette cyberguerre, c'est quand même dangereux, il faudrait quand même qu'on s'accorde, il faudrait que des règles spécifiques soient attribuées à ce mode d'affrontement », et rien ne bouge, rien n'avance. Pourquoi ? Parce que la main sur le cœur, au moment où on fait une déclaration, tout le monde est d'accord. Simplement, quand il s'agit de passer à la phase opérationnelle, personne ne veut. Pourquoi ? Parce qu'on est sur un terrain où, justement, et on voit que ça mêle le renseignement économique, le renseignement diplomatique, et on l'a appris, même nous, Français, à nos dépens, quand nous avons vu que, nous avons appris avec tristesse, que les Allemands, nos amis, nos partenaires allemands du quotidien, espionnaient les gouvernements français. Alors, en plus, on a été d'autant plus déçus quand on a appris qu'ils espionnaient le gouvernement français et qu'ils fournissaient ces informations aux Américains en espérant, et c'est ce qui avait provoqué l'ire de Madame Merkel, que ça allait susciter une espèce d'impunité des Allemands qui ne seraient pas l'objet d'un même espionnage de la part de leurs amis américains. Donc vous voyez bien que on a beau être des alliés politiques, des alliés diplomatiques, des alliés économiques, dans le renseignement, qui justement est numérisé et permet d'avoir accès à ces informations, c'est la règle du chacun pour soi, même au sein de la famille européenne. La France a créé une stratégie nationale de sécurité dans le domaine cyber, elle est franco-française. Les Allemands ont fait la même.
On y reviendra tout à l'heure.
Mais... Et vous voyez bien qu'on n'a pas d'alliés. Et donc, ce qui fait que, quel serait le pays qui pourrait être désigné comme fautif s'il n'avait pas créé et entretenu une capacité offensive et défensive dans le domaine numérique? Donc, que les Russes sachent et aient les moyens de le faire, oui. Est-ce que les Russes ont intérêt à le faire? Oui. Est-ce que les Russes le font? Certainement. Est-ce que dans ce cas précis, ils sont à la manœuvre? On est bien incapable de le dire.
Fabrice Eppelboin, le fait que le géant pétrolier Rosneft ait été touché par cette attaque du virus Petya ne dédouane pas forcément la Russie, d'après vous?
Ah ben, il suffit de regarder un peu nos livres d'histoire. Hitler comme Napoléon ont fait face à des Russes qui étaient prêts à brûler tout sur leur passage, y compris au sein de leur propre territoire. Je pense pas que ce soit un critère très déterminant pour absoudre les Russes. Il y a deux hypothèses aujourd'hui qui sont dominantes. Celle d'une entité qui est directement dépendante du gouvernement russe, qui serait à l'origine de ces attaques. Et puis celle qui me semble plus vraisemblable, mais on est de toute façon dans le domaine des hypothèses, qui serait celle d'une cybermafia proche du Kremlin et qui agirait dans une relative indépendance, mais qui serait très clairement alignée sur les intérêts du Kremlin. Mais ça peut tout aussi bien être autre chose. On est de toute façon dans un domaine où on est sur des hypothèses. Malgré tout, il ne faut pas se limiter dans les hypothèses, parce que c'est elles qui permettent d'envisager un tableau global et d'envisager des méthodes d'action pour contrer ce qui est en train d'arriver. Aujourd'hui, ce qui se passe, d'un point de vue strictement géopolitique, c'est qu'on a de l'armement électronique américain créé par la NSA, qui a été dérobé par une entité proche de la Russie et qui aujourd'hui est distribuée à d'autres cybermafias qui s'en servent pour expérimenter des choses ou à tout un tas d'autres fins qu'on n'a pas encore identifiées. Donc on est dans une espèce de guerre froide, bras de fer entre la puissance américaine et la puissance russe, avec un deal posé par les Russes qui est de dire aux Américains: désarmez-vous, révélez tous vos secrets de façon à ce que tout le monde puisse s'en protéger, et si vous le faites, ce que nous sommes en train de faire deviendra totalement ineffectif. Évidemment, les Américains ne vont pas se désarmer, donc pour l'instant, on est dans ce moment où ce bras de fer est en train d'avoir lieu. La plupart des individus n'ont aucune conscience de la dimension géopolitique qui est derrière ce bras de fer, et on va voir comment ça va évoluer, mais il y a peu de chances que les Américains se désarment, donc on a de bonnes chances de voir ça pendant encore très longtemps.
D'après vous, la NSA a joué avec le feu en ne se montrant pas assez vigilante et en laissant cette faille?
La NSA est très honnêtement à l'origine, peut-être pas de tout, mais de l'essentiel du problème. C'est la première puissance mondiale en termes d'offensif sur le cyber, et le fait de pas être capable de contingenter son armement et d'éviter de se le faire dérober, c'est une faute absolument inexcusable. Par ailleurs, il faut être honnête, il n'y a pas moyen de contingenter une information numérique. Ça n'est pas possible. C'est aussi ridicule que de vouloir lutter contre la gravité.
Fabrice Eppelboin, Laurent Bloch, Nicolas Arpagian, on va marquer une pause, le temps d'un nouveau journal sur RFI. On se retrouve dans 10 minutes avec nos experts en cybersécurité et cyber...
Générique.
Géopolitique.
Chantal Leroux.
La cyberattaque, nouvelle arme du 21e siècle. On continue d'en débattre avec nos trois invités. Laurent Bloch, chercheur en cyberstratégie à l'Institut de l'économie. Nicolas Arpagian, directeur de la stratégie et des affaires publiques d'Orange Cyberdéfense et directeur scientifique à l'Institut national des hautes études de la sécurité et de la justice. Et Fabrice Eppelboin, cofondateur de Yogosha, start-up spécialisée dans la cybersécurité et enseignant à Sciences Po Paris. Les États-Unis, après WannaCry, avaient accusé un groupe de pirates liés à la Corée du Nord, Lazarus. Qu'est-ce qu'on sait sur Lazarus, Laurent Bloch?
Alors sur Lazarus, on sait peu de choses, mais ce qui est sûr, c'est que la Corée du Nord a de bons informaticiens. Comme beaucoup de pays de l'ancien bloc soviétique, il y avait une bonne formation scientifique. C'est ce qui fait la force des attaques russes actuellement, parce que la Russie, sur le plan industriel, est un nain à côté des États-Unis. Leurs moyens techniques informatiques sont extrêmement faibles, leurs investissements sont faibles, ils n'ont pas de procédures de construction, de matériel, de processeurs, de choses comme ça. Ils sont inexistants dans ce domaine. Mais ils ont une puissance intellectuelle héritée de leur passé scientifique de l'époque soviétique. Donc c'est pas tout à fait impossible qu'effectivement il y ait une attaque originaire de Corée du Nord. Cela dit, on n'en aura jamais la preuve, je ne le pense pas.
On parle pas beaucoup de la Chine, Fabrice Eppelboin. On a des soupçons aussi sur les pirates chinois.
C'est pas la mode,
chinois.
Mais non, en ce moment, il n'y a pas de soupçons particuliers sur la Chine. Ça reviendra peut-être un jour. Mais à l'heure actuelle, effectivement, tout le monde désigne la Russie. Alors pour ce qui est de Lazarus, très concrètement, Lazarus, c'est le groupe qui a récupéré une faille de sécurité qui a été diffusée par ce fameux groupe proche du Kremlin, enfin qu'on imagine proche du Kremlin, qui s'appelle les Shadow Brokers. Est-ce que c'est la Corée du Nord? J'ai envie de dire, peu importe, c'est le bout de la chaîne. Ce qui est intéressant, c'est surtout ce mécanisme d'un vol d'armement qui, du fait même qu'il est numérique, peut se distribuer à très grande échelle et à n'importe où.
Est-ce que ces cyberattaques ont changé maintenant les rapports de force entre les grandes puissances? Est-ce que certains ont perdu leur rang, par exemple, à cause de cette vulnérabilité aux cyberattaques? Nicolas Arpagian.
Alors, en fait, effectivement, la taille, là, on n'est plus sur avoir des individus qui doivent occuper un terrain, c'est-à-dire des nombres de personnel ou des têtes de missiles que l'on pourrait compter, surtout que c'est un univers qui va être mixte entre la sphère civile et la sphère militaire. On le voit typiquement en Israël, où il y a justement une imbrication entre un tissu économique d'entreprise israélienne et puis la capacité de collaborer avec l'administration, la défense de l'État israélien en tant que collectivité. Dans le cas de la Chine, c'est pareil, où effectivement on a des entreprises du secteur high-tech qui ont une expertise, qui ont des ressources, qui ont une capacité de faire de la recherche et développement et de mettre à disposition de la collectivité, dans le cadre de relations spécifiques bilatérales, de la collectivité nationale. En tout cas, ce qui est certain, c'est que les pays qui n'investissent pas, et c'est là où le continent européen est un continent riche économiquement, riche en matière grise, on parle de l'économie de services, est quand même un maillon faible dans la chaîne. Pourquoi ? Parce que si vous regardez les grands acteurs du numérique, la Chine a dans tous les domaines du e-commerce, civil, bien sûr, et du logiciel des acteurs très importants et des ressources et des compétences, des formations. Les Américains en ont évidemment. La Russie en a évidemment. Vous avez un moteur de recherche totalement russe. Vous avez des réseaux sociaux, l'équivalent d'un Facebook. Il y a un écosystème national. L'Europe, par des choix, des non-choix, des aveuglements, des erreurs, est dans la position de l'utilisateur de technologies développées par d'autres. Et c'est là où intervient ce que Fabrice Eppelboin a évoqué dans le cas de la NSA, c'est-à-dire les fameuses backdoors, ces portes dérobées que peut laisser un éditeur. C'est un peu le tunnel de secours qui permet aux techniciens d'arriver et de faire des réparations pendant que le public continue à utiliser le tunnel sous la Manche. Bah là, c'est un peu la même chose. Des backdoors, c'est des portes d'accès. Alors évidemment, une fois que vous avez créé une porte d'accès, si vous n'en avez pas informé votre client légitime, effectivement, quelqu'un, un État, et donc une mafia demain peut utiliser cette porte d'accès et se comporter comme un utilisateur légitime de la technologie. Et donc on voit bien que l'Europe, là, malgré sa puissance économique, est plus un utilisateur de technologie qu'un auteur. Et donc ça, c'est certainement un élément de la faiblesse de sa durabilité numérique, parce qu'elle ne maîtrise pas l'essentiel des outils qu'il utilise et qui structure, qui façonne son économie, la pérennité de ses administrations et, en quelque sorte, l'exercice de sa souveraineté.
Comment vous expliquez, Fabrice Eppelboin, que l'Europe ne prenne pas la mesure du danger?
Je crois que c'est un continent vieillissant, avec des politiques vieillissantes. Enfin, on a eu un renouvellement assez violent et brutal en France très récemment, mais on sort d'un mode de gouvernance qui est excessivement vieillissant, qui est dirigé par des gens qui ne comprenaient pas grand-chose au numérique, qui le reléguaient à la cinquième roue du carrosse, et on en paye le prix. Effectivement, aujourd'hui, on est une colonie numérique américaine, ni plus ni moins. On utilise de la technologie américaine, et si demain, on devait se passer de technologie américaine, plus rien ne fonctionnerait, alors qu'effectivement, la Russie ou la Chine y arriveraient. Ça serait probablement un peu plus difficile pour la Russie que pour la Chine, mais ils arriveraient tout à fait à vivre sur leur propre technologie.
Et comment peut-on développer le cyber-renseignement, Laurent Bloch?
Oui, je voudrais quand même apporter une nuance à ce que viennent de dire mes deux collègues. C'est vrai, si on regarde quelles sont les cyberpuissances, bon, les États-Unis et la Chine, c'est évident. Ensuite, je nommerai quatre pays que j'appellerai les quatre cyberdragons, Corée du Sud, Taïwan, Singapour et Israël, qui sont des pays qui ont toutes les capacités en matériel et en logiciel pour produire les choses qui sont efficaces dans le cyber. Je rejetterai la Russie, qui a des possibilités en logiciel, mais qui n'a rien en matériel et qui n'aura rien. Qui n'en a pas les moyens, qui n'a même pas conscience des moyens qu'il faudrait consacrer à ça, qui ne pourrait pas produire de microprocesseurs. Le cœur de l'informatique, c'est les microprocesseurs. Alors, ce qui est incroyable, c'est que la France et l'Europe en général, la France a ce qu'il faut. La France est un des 6 pays au monde capables de produire des microprocesseurs à l'état de l'art. La Russie n'en fait pas partie, la Chine n'en fait pas partie, parce que la Chine n'a pas les licences d'importation pour les matériels qui permettent de fabriquer les microprocesseurs, dont il y a 3 producteurs au monde, dont le leader mondial est néerlandais. Ça, personne ne le sait, mais c'est très important. Tout repose là-dessus. Alors, les capacités de la Russie en matière de logiciels sont certes intéressantes. Si ces logiciels doivent tourner sur des matériels contrôlés par une puissance étrangère, eh bien, ils n'en ont pas vraiment le contrôle, parce que ça veut dire que s'ils utilisent des processeurs fabriqués par une entreprise américaine, eh bien, un processeur, ça se pirate, ça se falsifie. On peut introduire des backdoors aussi dans le matériel. Il y a eu des expériences très spectaculaires dans ce domaine. Et donc, la Russie est un tigre de papier.
Et le fait que l'OTAN soit en train de définir le cyberespace comme un domaine militaire, ça, c'est quand même un signe qu'ils ont pris la mesure de la menace quand même, Nicolas.
Alors, le problème, c'est que ce qu'on appelle le DCA, le droit des conflits armés, alors l'être humain, évidemment, se fait la guerre depuis toujours, avant même la technologie. Simplement, on a à un moment codifié cette manière de faire la guerre. Simplement, la seule chose, c'est qu'on a, par exemple, séparé les populations civiles des professionnels de l'armée. On a distingué ce qui était un état de paix, un état de guerre. On a distingué ce que l'on pouvait faire à l'encontre de populations civiles, ce qu'on ne pouvait pas faire, ce qui suscitait justement la notion de crime contre l'humanité, la notion de responsabilité, justement, d'un État pour des comportements qu'on va juger justement outrageux. La difficulté dans cet univers du cyberespace, c'est que vous voyez bien qu'on n'est pas à l'aise pour déterminer qui est à la manœuvre, pour déterminer l'ampleur d'une attaque, pour déterminer la nature justement des modes opératoires et des cibles. Et donc c'est vrai que la difficulté de cette transposition, Hillary Clinton en son temps déjà à l'époque au département d'État avait annoncé, avait dit, les États-Unis s'autorisent à riposter de manière conventionnel, donc en clair avec des missiles, avec l'envoi de troupes, avec des bombardements, à une cyberattaque.
Et là, l'OTAN vient de dire la même chose, en fait.
Voilà, alors, une fois qu'on a dit ça, très bien, alors ça affirme une posture d'autorité, mais le problème, c'est la phase de réalisation. Comment je vais désigner la cible? Comment je vais proportionner la nature de ma réponse? Comment je vais être en mesure de me dire, voilà, je n'ai pas de doute sur l'origine géographique de l'attaque, parce qu'à un moment, l'envoi de vos troupes, les bombardements, il va bien falloir leur donner des positionnements géographiques, il va bien falloir choisir des pays. Et c'est vrai que c'est pas parce qu'une attaque, vous avez l'intime conviction qu'elle émane d'un territoire, que la population de ce territoire est partie prenante, et que l'État de ce territoire est soit informé, soit à l'initiative de l'attaque en question. Et donc, le problème, c'est que le virtuel permet la mobilité, la dissimulation des identités, le conventionnel, bah à un moment, il faut quand même bien appuyer sur un bouton et désigner une cible. Et c'est vrai que c'est là où, pour l'instant, on est dans une progression de l'intensité. C'est certain. La phase de passage à l'acte risque d'être très problématique parce que, en plus, dans un monde de dissimulation, de fraude, vous imaginez bien qu'on pourrait être très tenté de donner l'illusion que cela émane d'un territoire X de manière à ce que celui-ci fasse l'objet d'un bombardement et que moi, pays Y, je me satisferais de leurrer mon adversaire en donnant l'illusion que tel autre pays est à la manœuvre. Et donc, là, on est dans un domaine où, pour l'instant, on voit bien qu'il y a cette réflexion, cette affirmation politique. La phase de de concrétisation risque d'être vraiment problématique.
Fabrice Eppelbois, on est quand même formidablement démunis, puisque si j'ai bien compris, quel que soit le type d'attaque, c'est impossible de remonter à la source et d'identifier les auteurs. Est-ce que ça pourrait changer un jour? Ou bien est-ce qu'il va falloir passer par des chemins détournés, comme le renseignement, pour réussir à identifier l'origine qui se cache derrière ces attaques?
Je pense pas que le renseignement soit une solution. Souvenez-vous, la seconde guerre du Golfe, avec Colin Powell, qui, sous la base de renseignement, affirmait péremptoirement que l'Irak était en train de fabriquer des armes de destruction massive.
Oui, mais c'était des faux renseignements.
Oui, les renseignements.
Parce qu'à l'époque, on avait justement mis en exergue le fait que les États-Unis n'avaient pas investi dans le renseignement sur le terrain, par exemple, contrairement à d'autres pays.
Oui, je ne pense pas que la solution viendra du renseignement. On ouvre un nouveau territoire de guerre, Laurent Bloch le rappelait tout à l'heure, qui, contrairement au précédent, change de façon radicale les règles, vraiment radicale. On le voit dans cette confrontation entre les États-Unis et la Russie. La Russie est effectivement un nain, que ce soit d'un point de vue industriel ou militaire, par rapport aux Américains, malgré tout. Ils arrivent à leur tenir tête. Pour revenir sur l'épisode Stuxnet, où les Américains avaient détruit l'appareil d'enrichissement d'uranium iranien, et l'Iran est vraiment un nain par rapport aux États-Unis d'un point de vue militaire, industriel ou quoi que ce soit. Malgré tout, les Iraniens avaient répliqué de façon assez violente, rapidement, et les Américains s'étaient aperçus que c'était un jeu à somme nulle et que tout le monde allait sortir perdant. Donc le conflit cyber entre l'Iran et les États-Unis s'est arrêté à ce moment-là. On n'est plus dans un monde où le fait d'avoir la première armée du monde, que ce soit dans le cyber ou dans le réel, permet d'asseoir une domination. C'est devenu beaucoup plus subtil, beaucoup plus complexe.
Mais alors justement, comment faire maintenant, si vous me dites que ce n'est pas par le renseignement qu'on pourra identifier les auteurs des attaques, comment on va faire, Nicolas?
Alors en fait, je pense qu'il faut adopter une stratégie modeste. La stratégie modeste, c'est de dire, il faut déjà admettre qu'il y a des cyberattaques qu'on ne pourra pas empêcher. D'admettre cette position de fragilité. Par contre, une fois qu'on a dit ça, la posture à adopter, c'est de dire, voilà, moi je dois faire en sorte que lorsqu'une attaque survient, je dois pouvoir la détecter le plus rapidement possible.
Donc il faut investir dans la prévention.
Dans la détection. Alors la prévention, bien sûr, en termes de pédagogie et de moyens d'alerte, mais c'est surtout de se dire, voilà, je ne pourrais pas l'empêcher. Pourquoi? Parce qu'il y a également, il faut ne pas négliger les complicités internes. Le fait qu'on peut avoir des négligences internes. Le fait qu'on puisse avoir plein d'éléments, et plus cette informatique qui s'est construite par couches successives et qui n'a pas été nativement sécurisée. Donc la première chose, c'est de dire, voilà, je dois mettre en place des éléments me permettant de détecter une attaque dès lors qu'elle survient le plus rapidement possible. Deuxièmement, je dois faire en sorte de la circonscrire, c'est-à-dire faire en sorte qu'elle ne soit pas capable de se diffuser, de se propager. Et troisièmement, de faire en sorte de dire, parce que j'aurais mis en place des outils, soit de résilience, des outils de duplication, faire en sorte que je puisse revenir à une situation normale dans des délais les plus rapides possibles, de manière à, faute de pouvoir empêcher l'attaque, neutraliser les effets de celle-ci. Par contre, ça oblige des investissements, ça oblige à de la formation, ça oblige à de l'entraînement. Donc vous voyez bien que là, il ne faut pas voir l'économie, le numérique comme étant un facteur de réduction des coûts en disant, c'est numérisé, donc c'est plus simple, ça marche tout seul. Non, pas du tout. Il faudra investir dans les individus, dans les cerveaux capables de comprendre que, on prenait l'exemple des centrales iraniennes, pourquoi est-ce que l'attaque a fonctionné? Parce que les opérateurs, les gens qui étaient chargés de la surveillance des infrastructures iraniennes, sur leurs écrans de contrôle, tout allait bien, parce que il fallait être physiquement sur le lieu, là où étaient mis les centrifugeuses, pour s'apercevoir qu'elles devenaient folles et qu'elles étaient en train de se détruire par le dysfonctionnement. Mais ceux qui étaient en charge de la surveiller, tant qu'ils n'étaient pas physiquement sur les sites, sur leurs écrans de contrôle, tout allait bien, on les avait leurrés. Donc on voit bien que il faut avoir cette capacité d'être toujours, alors c'est pas de la paranoïa, mais d'être dans le doute permanent, dans l'interrogation. Est-ce que ce que je vois correspond à la réalité? Est-ce que quand j'appuie sur ce bouton, est-ce que ça conduit bien les opérations que je souhaite? C'est une autre posture stratégique. La seule chose, c'est que effectivement, elle oblige à investir dans des cerveaux, et c'est là où on vient dans des capacités très humaines, dans des entraînements, des procédures capables de remédier et de revenir à une situation normale. On est totalement dans la démarche de résilience. Par contre, on ne pourra pas, et on l'a bien vu, puisque dans le cas des centrales iraniennes, un des moyens de protection qu'avaient choisi les Iraniens, c'était de l'isoler physiquement du reste de l'Internet, en disant, il ne pourra pas être infecté, parce qu'il n'est pas connecté, ce qu'on appelle le air gap, la protection justement par le fait que c'est pas connecté. Eh ben si, alors ça a pris un peu de temps. Il y a bien un moment, consciemment ou pas, quelqu'un qui a branché, alors est-ce que c'est une clé USB, est-ce que c'est un... ça on ne le sait pas, qui a permis l'infection de quelque chose qui pourtant n'était pas physiquement relié au reste du réseau. réseau.
Alors justement, est-ce que la multiplication des objets connectés, comme donc les smartphones, les tablettes, les consoles de jeux vidéo, ne rendent pas aussi la population dans son ensemble plus vulnérable à ce genre d'attaque? Fabrice Eppelmoin.
Ah, complètement. D'autant plus que les objets connectés, alors en particulier les objets connectés du type webcam connectés, des choses qu'on achète sous blister dans le supermarché,
les caméras de surveillance,
sont absolument pas sécurisées et peuvent être totalement détournées de leur usage. On a vu ça il y a peu de temps, finalement moins d'un an, où à travers, même pas un virus, mais on a constitué un réseau de caméras connectées qui montait, je crois, un demi-million de caméras connectées. Et on parle vraiment de la petite caméra que vous achetez pour surveiller votre gamin qui est en train de dormir. Et ces caméras ont participé à des gigantesques attaques qui ont, coup sur coup, paralysé tout un tas d'énormes sites américains comme le New York Times ou Twitter. Et puis, c'est passé plus inaperçu, mais c'était bien plus impressionnant encore, coupé du monde. Je crois que c'était le Zimbabwe qui a été carrément coupé du monde à un moment, à travers des attaques faites en piratant des objets connectés. Je voudrais revenir sur un point, sur comment aborder l'avenir là-dedans. Je crois qu'il y a un point essentiel qui est la formation et la réhabilitation. C'est pas une profession, mais la réhabilitation du hacker. On sort d'une période, et heureusement on en sort, où hacker était synonyme de cybercriminel. Ce qui est une hérésie totale. Chez les hackers, il y a des cybercriminels, mais ils sont, Dieu merci, très minoritaires. La plupart sont au service de la sécurité de chacun. Cette confusion qui a été faite par les politiques et les médias entre hackers et cybercriminels a tari les vocations, a stigmatisé toute une population, et c'est sur cette population qu'on repose pour notre sécurité aujourd'hui.
Mais est-ce qu'il y a quand même des cybermercenaires? Je vais alimenter peut-être cette tendance des médias, un marché des cybermercenaires comme avant les États, enfin même encore
maintenant. Parce qu'il y a des clients, on est dans un monde libéral. Pourquoi est-ce qu'il y a des cybermercenaires? C'est parce qu'il y a des gens, des entreprises, des administrations, des particuliers. Regardez le nombre de contentieux familiaux, domestiques aujourd'hui, quand vous avez un certain nombre de procès de divorce. Vous avez maintenant un piratage de téléphone portable du futur ex-conjoint. Pourquoi ? Parce que vous collectez de l'information. Aujourd'hui, quand vous souhaitez, alors ce sont des produits dont la vente est licite, mais l'usage est illicite, c'est des outils qui permettent de géolocaliser un téléphone à distance, par exemple officiellement pour savoir où se trouve votre enfant ou votre parent atteint de la maladie d'Alzheimer, pour savoir où le retrouver s'il devait fuguer. Bon, évidemment, ça sert certainement peut-être dans ces cas-là, mais on est vraiment dans des outils où là, il n'y a pas de barrière technique, ça se fait de manière tout à fait simple, et deuxièmement, il n'y a pas de barrière financière. Pour quelques euros, vous avez un logiciel qui n'a rien à envier avec celui qu'utilise un service de renseignement lorsqu'il veut géolocaliser quelqu'un suspecté d'activité criminelle ou terroriste.
Laurent Bloch, est-ce que la coopération européenne en matière de lutte contre le cyberterrorisme fonctionne bien ?
Comme l'ont dit mes collègues, l'Europe est très en retard et n'a pas pris la mesure de
Et Europol, de le rôle d'Europol.
Alors Europol, alors oui, il y a des îlots de compétences. On peut noter Europol. En France, on a l'ANSSI, qui est très bien.
L'Agence
nationale de sécurité des systèmes d'information, qui est rattachée au Premier ministre. Tout ça marche très bien. Je voudrais insister, comme mes collègues, sur l'importance de la formation. Alors maintenant, quant à la réflexion sur les conflits dans le cyberespace, on est dans une logique de guerre asymétrique, de stratégie du faible au fort. L'important, c'est d'avoir une défense en profondeur. C'est un concept qui a été élaboré à partir de la guerre de 14. Dès lors qu'on a eu des armements capables de porter à distance au-delà de la vision humaine, on a eu une défense en profondeur, c'est-à-dire on savait que même si une première ligne de défense était enfoncée par l'ennemi, il fallait pouvoir avoir une autre ligne de défense derrière qui permette de l'arrêter. Dans le domaine cyber, on a exactement la même chose, ça s'appelle le cloisonnement des réseaux. Les entreprises qui ont été le plus victimes, c'est celles qui n'avaient pas respecté ces règles élémentaires de sécurité.
Laurent Bloch, est-ce que vous diriez qu'aujourd'hui, la sécurité internationale repose davantage sur la cyberdéfense que sur la dissuasion nucléaire ?
Bien, les deux sont importants, bien évidemment, mais la cyberdéfense va devenir de plus en plus importante parce que c'est des risques réels qui peuvent donner lieu à des vraies catastrophes.
Eh bien, c'est sur ces propos qu'on va se quitter. Laurent Bloch, Nicolas Arpagian, Fabrice Eppelmoin, merci d'avoir été les invités de Géopolitique. Laurent Bloch, je rappelle que vous avez publié aux éditions DiploWeb l'Internet vecteur de puissance des États-Unis, point d'interrogation, et révolution cyber-industrielle en France chez Economica. Et vous avez partagé pour ce dernier livre le prix du livre cyber avec vous, Nicolas Arpagian. Vous avez écrit un que sais-je sur la cyber cybersécurité, c'est paru au PUF, et une nouvelle édition sortira en novembre. Et puis Fabrice Eppelboin, vous avez cofondé Yogosha, start-up spécialisée dans la cybersécurité. Merci à Véronique Durand et Marjorie Bertin qui m'ont aidé à préparer cette émission. Merci à Nathalie Laporte qui l'a réalisée. Dimanche prochain, on parlera du G5 Sahel. Bonne